Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec vous, Nathalie Lévy, et c'est l'heure de zoomer sur toutes les dernières infos du jour avec nos grandes voix. Ce soir, toujours à distance, mais autour de vous, Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1, Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, et depuis New York, ce soir, notre correspondant aux États-Unis, Xavier Yvon.
Oui, bonsoir les grandes voix, bonsoir Xavier Yvon,
bonsoir,
de l'autre côté de l'Atlantique,
bonsoir.
Bienvenue à tous.
Bonsoir à tous.
Xavier, je traverse et viens vous rejoindre quelques minutes parce qu'on essaye de comprendre en France, et d'ailleurs on s'interroge en France, hein, sur la provenance du virus. Le virus du Covid-19 a-t-il pu s'échapper d'un laboratoire? Cette thèse est de plus en plus évoquée, bien sûr chez vous, particulièrement les médias américains, et pas seulement hein, d'ailleurs, Mike Pompeo, hein, le chef de la diplomatie américaine, et puis en France, on va y venir dans un instant. Quid à cette heure-ci chez vous, parce que le Washington Post, hein, le très sérieux Washington Post, a commencé aussi à délayer hein, sur le sujet, à s'en inquiéter.
Oui, c'est même d'ailleurs le Washington Post qui a un peu lancé la conversation cette semaine avec cet article qui citait deux câbles diplomatiques américains en 2018, donc c'était il y a deux ans, et qui alertait sur les dangers posés par ce fameux laboratoire de Wuhan, qui avait des problèmes de sécurité, de protocole, etc. Donc les câbles diplomatiques datent évidemment d'avant la pandémie. À partir de cet article du Washington Post, c'est vrai qu'on en parle beaucoup ici de cette hypothèse de l'origine du virus, avec quand même aussi beaucoup de prudence dans les médias américains. D'abord, on rappelle que ce n'est pas un virus qui a été fabriqué par l'homme, c'est un virus naturel. En revanche, d'où est-il parti? Est-il parti de ce marché ou de ce laboratoire? C'est la question qu'on se pose et que se posent d'ailleurs les autorités américaines, même si elles aussi, dans les déclarations, restent quand même assez prudentes. Même Donald Trump, il dit « on va regarder ça de près, on va faire une enquête ». Voilà, il n'y a pas d'affirmation, mais il y a ce soupçon sur ce labo chinois qui, visiblement, était assez bien connu des scientifiques américains puisqu'il y avait un partenariat et ils avaient été donc suffisamment alertés sur l'état du laboratoire pour faire des remontées diplomatiques et dire qu'il y avait un problème et un risque de pandémie.
Ouais. Alors, je crois que Donald Trump, jusque-là, s'est montré très évasif. Hein, quand on lui pose la question, est-ce qu'il a évoqué le cas du laboratoire avec son homologue chinois Xi Jinping? Je crois que pour l'instant, il botte en touche. Vous nous direz, évidemment, au fur et à mesure, Xavier Yvon. Mickaël Darmon, côté français, nous, on a vu notamment le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, co-découvreur du virus de sida, s'en emparer aussi ce matin. Emmanuel Macron, le président de la République, qui a émis à son tour des doutes hein, après Washington et après Londres aussi. Que dit-on du côté de l'exécutif à cette heure-ci ?
Eh bien, on dit deux choses. On dit d'abord effectivement ce qu'a dit le président de la République au Financial Times, c'est-à-dire posons le soupçon, c'est-à-dire on ne sait pas voilà manifestement tout ce qui s'est passé en Chine, donc ouvrant aussi un peu la boîte de Pandore de ce point de vue-là. Et puis il y a eu cet après-midi un briefing qui était tenu par les équipes donc diplomatiques et de communication à l'Élysée avec les journalistes. Et effectivement là, il a été dit, mais nous n'avons absolument aucune preuve pour étayer ce qui se dit dans la presse américaine et pour étayer la thèse donc de cette manipulation erronée ou de ce problème au cours de au sein du laboratoire P4 donc en Chine qui aurait provoqué le début de la pandémie. Donc on voit bien qu'il y a comme exactement on vient d'entendre de l'autre côté de l'Atlantique, et bien une forme à la fois de prudence tout en disant on sent bien qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais on peut pas vraiment l'étayer. Toujours est-il qu'il y a une sorte de consensus pour pointer quand même au moins les regards du côté de la Chine.
On va pas se mentir, Mickaël Darmon, on peut pas de toute façon aller au-delà. On a besoin de la Chine, l'Occident a besoin de la Chine hein, de toute façon.
Oui, ça c'est paradoxal de pouvoir de créer une tension en ce moment, en tout cas d'assumer une tension avec la Chine, alors qu'en ce moment elle est en train aussi d'assurer partiellement donc un pont aérien pour acheminer du matériel médical, que bien évidemment toutes les considérations géopolitiques et économiques font que c'est finalement un pays qu'il faut ménager. On voit bien comment la France aussi a des intérêts à ménager. Donc on sent qu'il y a une forme d'hésitation, de chemin de crête. Manifestement, la réponse française vient aussi après la sortie de l'ambassadeur en France, qui avait été extrêmement virulent à l'égard de l'attitude des autorités ici en France pour lutter contre la pandémie. Donc on voit bien que en ce moment c'est un petit peu à Uadia, mais il y a des tensions. D'accord. Et on peut pas aller jusqu'au bout, mais c'est une manière de dire
on
a compris qu'il s'est passé quelque chose, enfin au moins le message
était
éclairé.
Et passé. On va évidemment se tourner vers le docteur Jimmy Mohamed. Docteur, vous êtes avec nous hein, depuis le début de la journée sur Europe 1. Docteur, on nous parle d'une nouvelle piste de traitement, la colchicine. D'ailleurs, je crois que c'est des chercheurs canadiens qui, au départ, l'ont testé, ce traitement. Vous allez nous en dire plus ce soir. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors c'est vrai qu'à la base la colchicine c'est un traitement qui est utilisé classiquement en rhumatologie pour les crises de gouttes et on s'est rendu compte que peut-être ça pouvait être une piste, on parle beaucoup de la chloroquine mais les chercheurs du monde entier cherchent de nouvelles innovations avec des médicaments que nous avons déjà et ce qu'on sait c'est que c'est avec ce coronavirus le système immunitaire est très fortement sollicité pour lutter contre l'infection et ça entraîne chez certains patients une libération massive de quelque chose qu'on appelle des cytokines, on appelle ça même un orage cytokinique ou une tempête cytokinique, c'est des mécanismes inflammatoires. Et ces cytokines sont plus importantes chez les patients qui font des formes graves comparées à ceux qui vont des formes bénignes. Et donc on s'est rendu compte que cette colchicine pouvait peut-être et sûrement bloquer ces cytokines et donc peut-être faire en sorte que vous allez faire des formes moins importantes, moins sévères. Et donc effectivement, des Canadiens font une étude, 6000 patients vont être inclus, mais on a aussi des Italiens, des Grecs. C'est une nouvelle piste avec un médicament bien connu qui coûte pas cher, avec très peu d'effets secondaires. Donc si jamais cela pouvait marcher, eh ben, je pense qu'on pourrait peut-être sauver beaucoup de monde.
Alors voilà, donc restons vigilants, mais continuons d'espérer et de travailler sur ce dossier. Emmanuel Duteil, c'est une des informations du jour. Le chômage partiel qui va encore bondir parce que pour les personnes en arrêt, à partir du 1er mai, attention, hein, on va basculer pour garde d'enfants, on va basculer dans ce dispositif, à compter donc dans 3 semaines.
Oui, hein, je ne sais pas si tous nos auditeurs ont bien en tête, mais pour tous ceux qui avaient des problèmes de garde d'enfants, qui devaient garder leurs enfants, il avait été possible de se mettre en une sorte d'arrêt maladie donc payé au même titre qu'un arrêt maladie classique. Le problème, c'est que les règles de l'arrêt maladie, c'est que quand vous dépassez une certaine période, vous avez une dégressivité, vous n'avez plus que 60% de votre salaire. Le problème, c'est que ça y est, on était arrivé à cette période. Et donc, pour que les familles qui se sont arrêtées pour garder leurs enfants, ils en ont pas fait le choix, c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus d'école ou de crèche. Et donc, ces familles qui se sont arrêtées ne vont pas être pénalisées. Le gouvernement a décidé aujourd'hui qu'ils allaient basculer dans le chômage partiel. Donc, ça va encore faire bondir les chiffres du chômage partiel. Il faut voir qu'aujourd'hui, on a quasiment un salarié sur deux du secteur privé qui est au chômage partiel. On a 9 millions de salariés au chômage partiel. Et on pourrait même rajouter un bout de la fonction publique, hein, puisque ceux qui ne peuvent pas télétravailler sont également sous une forme de chômage partiel, sauf que dans la fonction publique, il est payé à 100%.
Voilà, donc ça c'est à compter du 1er mai, hein, très précisément. Je reviens vers vous dans un instant. Xavier Yvon, on vient de l'apprendre à l'instant. Et puis d'ailleurs, vous allez nous éclairer, parce que je crois que Donald Trump a donné des recommandations hein, sur confinement, déconfinement et jusqu'à quand. Là, on apprend ce soir que du côté de l'État de New York, le confinement sera prolongé jusqu'au 15 mai. Donc ça continue encore pendant un mois.
Oui, ici, ça s'appelle le New York en pause, parce que c'est pas un confinement strict comme chez vous en France, où il y a des amendes quand on sort, etc. Ce sont des recommandations. Mais oui, le gouverneur de New York est un des personnages principaux de ce confinement et de cette épidémie ici aux États-Unis. L'a annoncé, il tient ses points de presse tous les jours. Il a quand même dit qu'il y avait plutôt une bonne nouvelle puisque les hospitalisations sont en baisse. Donc, on est en train de passer de l'autre côté de la courbe ici à New York. Mais il va faire exactement ce qu'il veut, ce gouverneur de New York. Il va pas rouvrir l'État de New York le 1er mai comme l'aimerait Donald Trump, qui avait fixé cette date comme objectif. Le gouverneur de New York dit on maintient jusqu'au 15 mai, mais on peut peut-être aller encore au-delà. Il rallonge à chaque fois ces périodes-là. Ouais. Et ça montre que ce sont les gouverneurs État par État qui vont décider quand reprendre l'activité, quand rouvrir petit à petit leur État, contrairement à ce que Donald Trump voulait en début de semaine. Cette semaine un bras de fer incroyable entre le président Donald Trump d'un côté et les gouverneurs des États des États-Unis. Donc Donald Trump, lui, il a un objectif en tête qui est politique.
Faire repartir l'économie.
Et lui, son meilleur argument de campagne, c'est l'économie. D'ailleurs, il appelle ça la meilleure économie dans l'histoire du monde. Donc, je laisserai les économistes juger. Mais voilà, il a dit on a fermé la meilleure économie de l'histoire du monde, on veut la rouvrir parce qu'il a besoin de ça pour se faire réélire. Donc, son désir profond, c'est que le pays reparte. D'ailleurs, le plan qu'il a présenté hier s'appelle Opening Up America Again, c'est-à-dire rouvrir à nouveau l'Amérique. C'est un copier-coller de son slogan de campagne « Make America Great Again ». Les chèques qu'il va envoyer, que le gouvernement américain va envoyer aux Américains, il y aura le nom de Donald Trump dessus. Donc, vous voyez, c'est un cas très politique pour Donald Trump. Sauf que face à la fronde des gouverneurs qui ont dit « On a un président, on n'a pas un roi, c'est à nous de décider, c'est nous qui connaissons la situation sur le terrain », Donald Trump a cédé. Il a juste donné des recommandations pour rouvrir les États, mais il a dit « C'est vous qui décidez en fonction de la situation chez vous ».
Voilà, et ça a été le cas donc à New York, confirmant prolongé jusqu'au 15 mai. On se retrouve les grandes voix dans un petit instant, également avec vous depuis les États-Unis, Xavier Yvon, à tout de suite. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1, Nathalie Lévy, avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h autour de vous ce soir et à distance. Chacun est confiné. Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1, Emmanuel Duteil en charge de l'économie sur Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, et depuis New York ce soir, notre correspondant aux États-Unis, Xavier Yvon.
Oui, on va reprendre avec vous, docteur Jimmy Mohamed. Vous allez nous parler d'une application, américaine qui déjà rencontre un énorme succès, plus d'1,5 million d'utilisateurs, pour finalement mettre ses symptômes à l'intérieur et les recenser et essayer d'établir comme ça si on a plus de fatigue, perte de l'odorat, etc. Et finalement, si on est positif ou pas, c'est ça ?
Exactement, c'est une façon d'avoir des données beaucoup plus rapidement que lorsqu'on fait des études. Alors évidemment qu'il y a ce qu'on appelle des biais, que les données sont peut-être pas très précises, mais les Américains, malgré tout, ils ont créé cette application qui permet à tout citoyen, en cas de Covid, de mettre ses symptômes qu'il a pu rapporter, et ça nous donne un classement assez particulier. Le premier des symptômes qui revient, c'est la fatigue, l'asthénie. Ensuite vient la perte de l'odorat, la toux, et la fièvre arrive en dernière position seulement. Alors que classiquement, on pourrait croire que dans cette infection, nous avons beaucoup de température. Or, ça ne semble pas être le cas. Attention, petite prudence, les gens ne connaissent pas forcément la vraie valeur de la température. Oui. Parfois, on a de la fièvre sans s'en rendre compte, mais on peut peut-être tirer une donnée de tout ça. C'est que le professeur Rousiou, qui est membre de l'Académie de médecine, qui est virologue, nous suggérait la semaine dernière qu'il faudrait peut-être prendre la température aux abords des écoles lors de la réouverture. De la même façon qu'on avait suggéré de prendre la température lors des vols aériens dans les aéroports. C'est une mesure très exceptionnelle qui paraît assez extraordinaire, mais finalement, les épidémiologistes nous disent qu'elle n'aurait pas beaucoup de valeur. Et là, avec cette petite étude américaine, vous allez me dire c'est pas grand chose, mais c'est 1,5 million d'Américains qui se sont connectés, qui ont mis leurs symptômes. Et bien, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de fièvre, on n'est pas sûr que prendre la température soit la bonne mesure, puisque peut-être à tort, vous allez vous croire non contagieux alors que vous êtes vecteur de la maladie. Bref, il va falloir explorer d'autres pistes. Les sérologues en feront peut-être partie, on en reparlera si on a un petit peu le temps.
C'est fou, hein, parce que la fièvre, on connaît un certain nombre de gens aujourd'hui qui se baladent quasiment avec leur thermomètre, hein. ça va en troubler plus d'un. On va poursuivre avec vous, Mickaël Darmon, parce que ça y est, on commence à avoir un semblant de date, en tout cas, présentation du plan de déconfinement. On devrait avoir des choses dans 10 jours.
Oui, selon les conversations qu'on peut avoir à la fois du côté de Matignon, de l'Élysée, eh bien, ce serait le plan de déconfinement peut être présenté à partir de la semaine du 26 avril jusqu'au 29. Il faut savoir que vous avez aussi deux repères pour aussi importants pour l'exécutif, c'est que normalement le 29 avril au Sénat doit être discuté, donc là, il doit y avoir le débat sans vote. Ce qui fera aussi réagir dans les prochains jours autour du traçage numérique. Le même débat aura lieu à l'Assemblée vraisemblablement la veille, le 28 avril, autour du même thème, toujours un débat sans vote, qui aussi très certainement remettra sur la table donc toutes les données et les divergences autour de cela. Et puis on voit bien que...
Donc là on fait remonter toutes les questions, c'est ça, mystère, je crois que des questions, remonte, les questions que pose le déconfinement, chaque toutes ministère, c'est ça. Hein.
Absolument, et c'est la raison, je pense, pour laquelle, entre autres, il y aura la conférence de presse qui est prévue, donc d'Edouard Philippe avec Olivier Véran dimanche après-midi, enfin à 17h, parce qu'ils vont faire très certainement la synthèse des questions qui ont été posées, listées, des problématiques. C'est aussi une manière pour Édouard Philippe de montrer qu'il est effectivement là, il occupe l'espace. On a bien compris qu'il y a une offensive assez puissante en ce moment sur le plan médiatique de Bruno Le Maire, qui table sur un éventuel remaniement ministériel. Et effectivement,
je vais vous laisser reprendre un verre d'eau. Reprenez un verre d'eau à ce moment-là, c'est possible. Et Emmanuel Duteil, pendant ce temps, on va regarder un chiffre qui finalement nous rassure un petit peu quand même, un petit peu. Hein. Peu de licenciements malgré la chute d'activité en France. Les entreprises n'ont que peu réduit leurs effectifs et même très peu licenciés. C'est une enquête entre autres du ministère du Travail.
Oui, effectivement, c'est une enquête de leur organisme qu'on appelle la DARES, qui est un peu pour caricaturer hein, l'INSEE du ministère du Travail et de l'Emploi. Effectivement, ils ont fait une enquête qui est très intéressante, qui s'arrête au 31 mars, malheureusement. Mais déjà, pour que la DARES arrive à nous donner des données si rapidement, je peux vous dire que, comme quoi cette crise a parfois des vertus extrêmement intéressantes. Mais ce qui est là très intéressant dans leur étude, c'est qu'on voit que les entreprises, grâce, une fois de plus, à cette mesure de chômage partiel, ont gardé leurs effectifs, puisque sur toutes les entreprises qu'ils ont sondées, seulement 11% disent avoir réduit leurs effectifs. Et encore, quand on regarde dans le détail, ce sont des embauches qui ont été retardées ou des CDD qui n'ont pas été renouvelés. Alors bien évidemment, c'est pas drôle pour les gens qui n'ont pas vu leur CDD renouvelé, mais les plans de licenciement, c'est même pas 2% de ces éventuelles suppressions de postes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même 3% des entreprises qui disent au contraire avoir augmenter leur nombre de collaborateurs. On pense bien évidemment à l'agroalimentaire, au e-commerce ou à tout ce genre de choses. Donc effectivement, dans cette enquête de la DARES, qui est une vraie photographie de la crise à tenter, on voit bien qu'il y a pour le moment un soutien à l'emploi. Et je peux vous dire que quand vous parlez aujourd'hui avec les chefs d'entreprise, il y a une grosse inquiétude pour l'avenir, mais il y a une forme de fierté que grâce à l'État, parce que c'est quand même grâce à l'État, il sera possible de redémarrer avec les équipes. Ce qui est très intéressant, et même si on pouvait s'en douter également dans cette enquête de la DARES, c'est qu'on a vraiment la photographie aussi du télétravail. Il y avait 25% de tous les salariés qui étaient en télétravail au 31 mars. Alors, ça peut paraître pas énorme comme ça, mais on est, allez, même dans les très bons moments d'habitude, on n'est même pas à 5%. Donc ça montre bien que la France a basculé de façon intéressante, mais on voit bien aussi dans cette enquête que la France est objectivement à l'arrêt, puisque dans leur calcul, 30% des entreprises, 20% pardon, 20% des entreprises sont totalement à l'arrêt, mais 30% des entreprises ont une activité qui est réduite d'au moins 50%. Donc c'est impressionnant et c'est vraiment les petites entreprises qui sont les plus à l'arrêt, mais c'est logique hein, parce que c'est dans les petites entreprises qu'on a les cafés, qu'on a les restaurants, qu'on a les hôtels, qu'on a les sociétés de la culture, etc., etc.
Alors si cette photo elle est plutôt rassurante en France, outre-Atlantique, Xavier Yvon, le constat n'est pas du tout semblable. Vous êtes chez vous à 22 millions de chômeurs en un mois, ce qui est pour ainsi dire du jamais vu hein.
Ah oui, c'est un chiffre absolument fascinant. En un mois, on a perdu autant d'emplois que ceux qui ont été créés ces 10 dernières années. C'est 22 millions. Le New York Times, qui est toujours très créatif dans sa manière de mettre en page, n'a plus de place pour montrer sur ces pages le nombre d'emplois perdus en mettant des petits points comme ça. D'ailleurs, il y a un article très intéressant dans le New York Times pour expliquer ce cataclysme économique, parce que évidemment, il est dû à la pandémie, au fait qu'on a fermé l'économie. Mais c'est surtout un révélateur des faiblesses structurelles de l'économie américaine. Et l'article du New York Times cite des économistes reconnus comme le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz ou l'économiste George Bowman pour expliquer que ces gens qui ont perdu leur emploi, en plus, ils n'ont aucun filet de sécurité. Alors, pas gouvernemental, mais aussi, ils n'ont pas d'argent de côté. Vous avez 4 Américains sur 10 qui n'ont même pas $400 d'avance pour parer au moindre souci de la vie. Donc, c'est des gens qui, comme le disent ces économistes, vivent sur une crête et cette pandémie les a poussés dans le fossé et il n'y a pas de filet pour les récupérer.
Ouais, c'est ça, c'est toute la différence évidemment entre les États-Unis et la France, hein, entre autres. Hein, mais bien entendu, on peut clairement aujourd'hui s'estimer heureux. On va revenir avec vous, docteur Jimmy Mohamed, sur ces sérologies. Alors, les sérologies, c'est ce qui permet, évidemment, c'est l'étude des sérums, entre autres. C'est ce qui permet de savoir aujourd'hui, cette méthode biologique qui permet d'établir des diagnostics. Aujourd'hui, c'est compliqué. On voit bien que nous n'avons pas été assez nombreux à avoir été malades. La question, elle se pose de peut-être tester les enfants, les professeurs, parce que c'est eux qui vont ressortir en premier.
Ouais, c'est une des pistes parce qu'effectivement on fonde beaucoup d'espoir sur ces sérologies. On a l'impression que ce sera un passe-partout, un passe-droit une fois que nous aurions été malades. Sauf que les données des études de séroprévalence qui vont nous dire à peu près quel pourcentage de la population aura eu le coronavirus peuvent être un peu inquiétants. On estime pour l'instant que moins de 10% de la population a été mis en contact avec le virus. Et pire encore, une étude chinoise, alors je ne sais pas ce qu'on peut donner comme crédit à ces études désormais, mais malgré tout, à Wuhan, 8600 personnes dans un hôpital, seuls 2 à 3% des gens ont une sérologie positive. Ce qui veut donc dire qu'il va falloir peut-être cibler un peu plus. Et effectivement, vu que nous allons réouvrir les écoles, peut-être que le virus circulait déjà au préalable depuis quelques temps dans les écoles, et notamment dans l'Oise. On va peut-être pas cibler des écoles du sud-est ou du sud-ouest où tout va bien, mais des écoles ou dans des foyers épidémiques en Ile-de-France. Et on pourra peut-être même tester les professeurs. Les professeurs sont des vecteurs de la maladie puisqu'ils sont tout le temps en contact. Malheureusement, ils sont souvent malades puisqu'ils attrapent les virus des enfants. Et donc, si jamais chez ces professeurs ou chez ces enfants, nous avons une sérologie positive, peut-être que ça permettrait d'avoir une meilleure idée sur la transmission du virus chez l'enfant. Et puis aussi, peut-être de donner une forme de laisser-passer, un passe-droit pour se dire que je vais peut-être aller voir les grands-parents, une forme de sécurité pour les proches aux alentours. Bien même sûr. Si, encore une fois, attention, qui dit sérologie positive ne veut pas forcément dire une immunité durable dans le temps, la question aussi est ensuite là. Mais je pense qu'il va falloir utiliser ces sérologies avec précaution. On ne pourra pas tester tout le monde et cibler vraiment. Les soignants font partie des pistes, mais peut-être qu'il faudra aussi tester les enfants et les professeurs.
Alors vite, vite, hein, c'est tout ce qu'on espère, bien sûr. On n'a toujours pas, effectivement, vous nous le dites, de garantie sur les échantillons qu'on peut faire en termes de population.
Bah en fait, ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, on sait, pour l'instant, les sérologies, ça commence à arriver un petit peu pour le personnel soignant, c'est mais comme... souvent elles reviennent négatives. Et même ceux qui reviennent positifs, on sait très bien qu'il y a encore une zone d'incertitude. Est-ce qu'une forme bénigne de la maladie va vous donner une immunité durable? On ne le sait pas. D'autant plus que nous revoyons, et j'en revois aussi, des gens qui ont développé une infection et qui deux, trois semaines, un mois après, redéveloppent des symptômes. Donc c'est une autre piste qu'il va falloir explorer. Mais bon, en tout cas, peut-être qu'il va falloir cibler les gens. Je pense que les élèves, les enfants sont vraiment une cible très intéressante, rien que sur le plan épidémiologique, à étudier.
Emmanuel Duteil, un dernier mot peut-être en une minute sur les questions des commerçants pour une réouverture le 11 mai. Et oui, parce qu'on parle bien sûr des restaurateurs du secteur du tourisme qui n'a pas encore de date, qui est dans le flou artistique le plus total. Mais peut-être les coiffeurs et autres vont pouvoir effectivement, enfin eux vont pouvoir ouvrir, mais comment?
Alors les coiffeurs, on sait, hein, Bruno Le Maire a dit qu'eux ils vont pouvoir ouvrir. Mais c'est vrai que ce qui est assez intéressant, je vais faire un peu de pub pour mon interview écho, pardonnez-moi. Mais je reçois ce soir le patron du groupe Etam et donc j'ai préparé un petit peu l'interview avec lui. Et de ce qu'il me disait, il dit nous ne savons même pas si aujourd'hui nous avons le droit de rouvrir le 11 mai, si qu'est-ce qu'on a le droit de rouvrir. Par exemple, ils se posent la question, ils se demandent est-ce que dans les zones denses, on aura le droit de rouvrir et comment on fait. Donc ils sont en train, par exemple, un groupe comme le groupe Etam, c'est des milliers et des centaines de milliers de magasins en France, ils réfléchissent à comment ils vont pouvoir travailler. Donc par exemple, ils vont mettre des compteurs à l'entrée des magasins pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de monde dans les boutiques. Ils vont faire ce qu'on appelle du click and collect. Vous savez, si vous commandez sur internet et que vous allez chercher en boutique, bah, jusque-là, l'idée c'était que le client aille le plus loin possible dans le magasin pour voir ce qu'il y avait au passage pour histoire d'en racheter un petit peu encore en arrivant. Non, bah ça on va mettre ça à l'entrée du magasin. Un truc aussi très intéressant, ils sont en train de revoir la façon dont aujourd'hui ils proposent à leurs vendeuses de vendre ou à leurs vendeurs et de façon à ce qu'il y ait moins de contact avec la clientèle. Bien évidemment, des masques, du gel hydroalcoolique, bien évidemment, ils réfléchissent aussi à des parois en plexiglas au niveau des caisses. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans cette préparation d'interview, c'est que ils ne savent pas. Donc c'est quand même marrant de se dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on en est, personne ne sait véritablement comment cet après-confinement va se dérouler à partir du 11 mai. Le 11 mai, même si c'est loin, c'est dans pas longtemps quand même.
Bah oui, c'est quand même pas loin du tout, c'est dans moins d'un mois maintenant, donc il faut quand même effectivement avoir des précisions. Merci à vous les grandes voix, on va se retrouver lundi, normalement si vous êtes au rendez-vous. Merci beaucoup à Xavier Yvon de l'autre côté de l'Atlantique, merci beaucoup. Le grand rendez-vous c'est avec vous, autour de vous, Mickaël Darmon, dimanche, avec votre invité ce dimanche, Xavier Bertrand, pendant une heure donc pour répondre à toutes vos questions. Merci les grandes voix.